Les aventures du dernier avant-serrage par François-René de Chateaubriand. Avertissement. Les aventures du dernier avant-serrage sont écrites depuis à peu près une vingtaine d'années. Le portrait que j'ai tracé des Espagnols explique assez pourquoi cette nouvelle n'a pu être imprimée sous le gouvernement impérial. La résistance des Espagnols à Buonaparte, d'un peuple désarmé à ce conquérant qui avait vaincu les meilleurs soldats de l'Europe, excitait alors l'enthousiasme de tous les cœurs, susceptibles d'être touchés par les grands dévouements et les nobles sacrifices. Les ruines de Saragosse fumaient encore, et la censure n'aurait pas permis des éloges où elle eût découvert, avec raison, un intérêt caché pour les victimes. La peinture des vieilles mœurs de l'Europe, les souvenirs de la gloire d'un autre temps et ceux de la cour d'un de nos plus brillants monarques n'auraient pas été plus agréables à la censure, qui d'ailleurs commençait à se repentir de m'avoir tant de fois laissé parler de l'ancienne monarchie et de la religion de nos pères. Ces morts que j'évoquais sans cesse faisaient trop penser aux vivants. On place souvent dans les tableaux quelques personnages difformes pour faire ressortir la beauté des autres. Dans cette nouvelle, j'ai voulu peindre trois hommes d'un caractère également élevé, mais ne sortant point de la nature et conservant avec des passions les mœurs et les préjugés mêmes de leur pays. Le caractère de la femme est aussi dessiné dans les mêmes proportions. Il faut au moins que le monde chimérique, quand on s'y transporte, nous dédommage du monde réel. On s'apercevra facilement que cette nouvelle est l'ouvrage d'un homme qui a senti les chagrins de l'exil et dont le cœur est tout à sa patrie. C'est sur les lieux mêmes que j'ai pris pour ainsi dire les vues de Grenade, de l'Alhambra et de cette mosquée transformée en église qui n'est autre chose que la cathédrale de Cordoue. Ces descriptions sont donc une espèce d'addition à ce passage de l'itinéraire. Guillemet. De Cadix, je me rendis à Cordoue. J'admirai la mosquée qui fait aujourd'hui la cathédrale de cette ville. Je parcourus l'ancienne bétique, où les poètes avaient placé le bonheur. Je remontai jusqu'à Andújar, et je revins sur mes pas pour voir Grenade. Alhambra me parut digne d'être regardée, même après les temples de la Grèce. La vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte. On conçoit que les morts regrettent un pareil pays. Fin des guillemets. Itinéraire, 8e et dernière partie. Il est souvent fait allusion dans cette nouvelle à l'histoire des aigris et des avant-serrages. Cette histoire est si connue qu'il m'a semblé superflu d'en donner un précis dans cet avertissement. La nouvelle, d'ailleurs, contient les détails suffisants pour l'intelligence du texte. Les aventures du dernier avant-serrage. Lorsque Boabdil, dernier roi de Grenade, fut obligé d'abandonner le royaume de ses pères, il s'arrêta au sommet du mont Padul. De ce lieu élevé, on découvrait la mer, où l'infortuné monarque allait s'embarquer pour l'Afrique. On apercevait aussi Grenade, la Vega et le Xénil, au bord duquel s'élevaient les tentes de Ferdinand et d'Isabelle. À la vue de ce beau pays et des cyprès qui marquaient encore çà et là les tombeaux des musulmans, Boabdil se prit à verser des larmes. La sultane Aïxa, sa mère, qui l'accompagnait dans son exil avec les grands qui composaient jadis sa cour, lui dit « Pleure maintenant comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Ils descendirent de la montagne et Grenade disparut à leurs yeux pour toujours. Les morts d'Espagne, qui partagèrent le sort de leur roi, se dispersèrent en Afrique. Les tribus des Aigris et des Gomelles s'établirent dans le royaume de Fès, dont elles tiraient leur origine. Les Vanégas et les Alabès s'arrêtèrent sur la côte depuis Oran jusqu'à Alger. Enfin, les avant-serrages se fixèrent dans les environs de Tunis. ils formèrent, à la vue des ruines de Carthage, une colonie que l'on distingue encore aujourd'hui des Maures d'Afrique par l'élégance de ses mœurs et la douceur de ses lois. Ces familles portèrent dans leur patrie nouvelle le souvenir de leur ancienne patrie. Le paradis de Grenade vivait toujours dans leur mémoire. Les mères en redisaient le nom aux enfants qui suçaient encore la mamelle. Elles les berçaient avec les romances des aigris et des abancérages. Tous les 5 jours, on priait dans la mosquée, en se tournant vers Grenade. On invoquait Allah afin qu'il rendît à ses élus cette terre de délices. En vain le pays des lotophages offrait aux exilés ses fruits, ses eaux, sa verdure, son brillant soleil. Loin des tours vermeilles, entre parenthèses tour du palais de Grenade, note de l'auteur, il n'y avait ni fruits agréables, ni fontaines limpides, ni fraîche verdure, ni soleil digne d'être regardé. Si l'on montrait à quelques bannis les plaines de la Bagrada, il secouait la tête et s'écriait en soupirant « Grenade !» Les abancérages, surtout, conservaient le plus tendre et le plus fidèle souvenir de la patrie. Ils avaient quitté avec un mortel regret le théâtre de leur gloire et les bords qu'ils firent si souvent retentir de ce cri d'armes « Honneur et amour !» Ne pouvant plus lever la lance dans les déserts, ni se couvrir du casque dans une colonie de laboureurs, ils s'étaient consacrés à l'étude des simples, profession estimée chez les Arabes à l'égal du métier des armes. Ainsi, cette race de guerriers, qui jadis faisait des blessures, s'occupait maintenant de l'art de les guérir. En cela, elle avait retenu quelque chose de son premier génie, car les chevaliers pansaient souvent eux-mêmes les plaies de l'ennemi qu'ils avaient abattu. La cabane de cette famille, qui jadis eut des palais, n'était point placée dans le hameau des autres exilés, au pied de la montagne du Mamlife. Elle était bâtie parmi les débris mêmes de Carthage, au bord de la mer, dans l'endroit où Saint-Louis mourut sur la cendre, et où l'on voit aujourd'hui un ermitage mahométan. Aux murailles de la cabane étaient attachés des boucliers de peau de lion, qui portaient, empreintes sur un champ d'azur, 2 figures de sauvages brisant une ville avec une massue. Autour de cette devise, on lisait ces mots. C'est peu de chose. Armes et devises des abancérages. Des lances ornées de pennons blancs et bleus, des alburnos, des casaques de satin tailladé, étaient rangées auprès des boucliers et brillaient au milieu des cimetières et des poignards. On voyait encore suspendus, çà et là, des gantelets, des mors enrichis de pierreries, de larges étriers d'argent, de longues épées dont le fourreau avait été brodé par les mains des princesses, et des éperons d'or que les Iseutes, les Genièvres, les Orianes chaussèrent jadis à de vaillants chevaliers. Sur des tables, au pied de ces trophées de la gloire, étaient posés des trophées d'une vie pacifique. C'étaient des plantes, cueillies sur les sommets de l'Atlas et dans le désert de Zahara. Plusieurs même avaient été apportées de la plaine de Grenade. Les unes étaient propres à soulager les maux du corps, les autres devaient étendre leur pouvoir jusque sur les chagrins de l'âme. Les abancérages estimaient surtout celles qui servaient à calmer les vains regrets, à dissiper les folles illusions et ces espérances de bonheur toujours naissantes, toujours déçues. Malheureusement, ces simples avaient des vertus opposées, et souvent le parfum d'une fleur de la patrie était comme une espèce de poison pour les illustres bannis. 24 ans s'étaient écoulés depuis la prise de Grenade. Dans ce court espace de temps, 14 abancérages avaient péri par l'influence d'un nouveau climat, par les accidents d'une vie errante, et surtout par le chagrin qui mine sourdement les forces de l'homme. Un seul rejeton était l'espoir de cette maison fameuse. Aben Hamet portait le nom de cet abancérage qui fut accusé par les aigris d'avoir séduit la sultane Al-Fahima. Il réunissait en lui la beauté, la valeur, la courtoisie, la générosité de ses ancêtres, avec ce doux éclat et cette légère impression de tristesse que donne le malheur noblement supporté. Il n'avait que 22 ans lorsqu'il perdit son père. Il résolut alors de faire un pèlerinage au pays de ses aïeux, afin de satisfaire aux besoins de son cœur et d'accomplir un dessein qu'il cacha soigneusement à sa mère. Il s'embarqua à l'échelle de Tunis. Un vent favorable le conduit à Carthagène, il descend du navire et prend aussitôt la route de Grenade. Il s'annonçait comme un médecin arabe qui venait herboriser parmi les rochers de la Sierra Nevada. Une mule paisible le portait lentement dans le pays où les abencérages volaient jadis sur de belliqueux coursiers. Un guide marchait en avant, conduisant 2 autres mules ornées de sonnettes et de touffes de laine de diverses couleurs. Aben Hamet traversa les grandes bruyères et les bois de palmiers du royaume de Murcie. À la vieillesse de ces palmiers, il jugea qu'ils devaient avoir été plantés par ses pères, et son cœur fut pénétré de regrets. Là s'élevait une tour où veillait la sentinelle au temps de la guerre des morts et des chrétiens. Ici se montrait une ruine dont l'architecture annonçait une origine mauresque, autre sujet de douleur pour l'abencérage. Il descendait de sa mule, et sous prétexte de chercher des plantes, il se cachait un moment dans ses débris, pour donner un libre cours à ses larmes. Il reprenait ensuite sa route, en rêvant au bruit des sonnettes de la caravane et au chant monotone de son guide. Celui-ci n'interrompait sa longue romance que pour encourager ses mules, en leur donnant le nom de belles et de valeureuses, ou pour les gourmander, en les appelant paresseuses et obstinées. Des troupeaux de moutons qu'un berger conduisait comme une armée dans des plaines jaunes et incultes, quelques voyageurs solitaires, loin de répandre la vie sur le chemin, ne servaient qu'à le faire paraître plus triste et plus désert. Ces voyageurs portaient tous une épée à la ceinture. Ils étaient enveloppés dans un manteau et un large chapeau rabattu leur couvrait à demi le visage. Ils saluaient en passant Aben Hamet, qui ne distinguait dans ce noble salut que le nom de Dieu, de Seigneur et de Chevalier. Le soir, à la Venta, l'abencérage prenait sa place au milieu des étrangers sans être importuné de leur curiosité indiscrète. On ne lui parlait point, on ne le questionnait point. Son turban, sa robe, ses armes n'excitaient aucun mouvement. Puisque Allah avait voulu que les morts d'Espagne perdissent leur belle patrie, Aben Hamet ne pouvait s'empêcher d'en estimer les graves conquérants. Des émotions encore plus vives attendaient l'abencérage au terme de sa course. Grenade est bâtie au pied de la Sierra Nevada,
sur 2 hautes collines
que sépare une profonde vallée. Les maisons placées sur la pente des coteaux, dans l'enfoncement de la vallée, donnent à la ville l'air et la forme d'une grenade entr'ouverte, d'où lui est venu son nom. 2 rivières, le Xénil et le Douro, dont l'une roule des paillettes d'or et l'autre des sables d'argent, lavent le pied des collines, se réunissent et serpentent ensuite au milieu d'une plaine charmante, appelée la Vega. Cette plaine, que domine Grenade, est couverte de vignes, de grenadiers, de figuiers, de mûriers, d'orangers. Elle est entourée par des montagnes d'une forme et d'une couleur admirables. Un ciel enchanté, un air pur et délicieux, porte dans l'âme une langueur secrète, dont le voyageur qui ne fait que passer a même de la peine à se défendre. On sent que dans ce pays, les tendres passions auraient promptement étouffé les passions héroïques. Si l'amour, pour être véritable, n'avait pas toujours besoin d'être accompagné de la gloire. Lorsque Aben Hamet découvrit le fait des premiers édifices de Grenade, le cœur lui battit avec tant de violence qu'il fut obligé d'arrêter sa mule. Il croisa les bras sur sa poitrine et les yeux attachés sur la ville sacrée, il resta muet et immobile. Le guide s'arrêta à son tour, et comme tous les sentiments élevés sont aisément compris d'un Espagnol, il parut touché et devina que le mort revoyait son ancienne patrie. L'abencérage rompit enfin le silence. « Guide, s'écria-t-il, sois heureux, ne me cache point la vérité. Car le calme régnait dans les flots le jour de ta naissance, et la lune entrait dans son croissant. Quelles sont ces tours qui brillent comme des étoiles au-dessus d'une verte forêt ?
C'est l'Alhambra, répond le guide.
Et cet autre château, sur cette autre colline, dit Aben Hamet.
C'est le généralife, répliqua l'Espagnol.
Il y a dans ce château un jardin planté de myrtes, où l'on prétend qu'Abencerrage fut surpris avec la sultane Alfaïma. Plus loin, vous voyez l'Albaïzine, et plus près de nous, les tours vermeilles.
Chaque mot du guide perçait le cœur d'Aben Hamet. Qu'il est cruel d'avoir recours à des étrangers pour apprendre à connaître les monuments de ses pères et de se faire raconter par des indifférents l'histoire de sa famille et de ses amis.
Le guide, mettant fin aux réflexions d'Aben Hamet, s'écria « Marchons, Seigneur mort, marchons, Dieu l'a voulu, prenez courage. François Ier n'est-il pas aujourd'hui même prisonnier dans notre Madrid ? Dieu l'a voulu. »
Il ôta son chapeau, fit un grand signe de croix et frappa ses mules.
L'Abencerrage, pressant la sienne à son tour, s'écria « C'était écrit !»
Entre parenthèses, expression que les musulmans ont sans cesse à la bouche et qu'ils appliquent à la plupart des événements de la vie. Note de l'auteur.
Et ils descendirent vers Grenade. Ils passèrent près du gros frêne, célèbre par le combat de Mutsa et du grand maître de Calatrava, sous le dernier roi de Grenade. Ils firent le tour de la promenade à la Meïda et pénétrèrent dans la cité par la porte d'Elvire. Ils remontèrent le Rambla et arrivèrent bientôt sur une place qu'environnaient de toutes parts des maisons d'architecture mauresque. Un camp était ouvert sur cette place pour les morts d'Afrique, que le commerce de soie de la Vega attirait en foule à Grenade. Ce fut là que le guide conduisit Aben Hamet.
L'Abencerrage était trop agité pour goûter un peu de repos dans sa nouvelle demeure. La patrie le tourmentait. Ne pouvant résister aux sentiments qui troublaient son cœur, il sortit au milieu de la nuit pour errer dans les rues de Grenade. Il essayait de reconnaître avec ses yeux ou ses mains quelques-uns des monuments que les vieillards lui avaient si souvent décrits. Peut-être que ce haut édifice, dont il entrevoyait les murs à travers les ténèbres, était autrefois la demeure des Abencerrages. Peut-être était-ce sur cette place solitaire que se donnaient ces fêtes qui portèrent la gloire de Grenade jusqu'aux nues. Là passaient des quadrilles superbement vêtues de brocart. Là s'avançaient les galères chargées d'armes et de fleurs, les dragons qui lançaient des feux et qui recelaient dans leurs flancs d'illustres guerriers, ingénieuses inventions du plaisir et de la galanterie. Mais, hélas, au lieu du son des anafins, du bruit des trompettes et des chants d'amour, un silence profond régnait autour d'Aben Hamet. Cette ville muette avait changé d'habitant, et les vainqueurs reposaient sur la couche des vaincus. « Ils dorment donc, ces fiers Espagnols ?» s'écriait le jeune mort indigné. « Sous ces toits dont ils ont exilé mes aïeux, et moi, Abencerrage, je veille inconnu, solitaire, délaissé, à la porte du palais de mes pères ?» Aben Hamet réfléchissait alors sur les destinées humaines, sur les vicissitudes de la fortune, sur la chute des empires. Sur cette Grenade, enfin, surprise par ses ennemis au milieu des plaisirs, et changeant tout à coup ses guirlandes de fleurs contre des chaînes. Il lui semblait voir ses citoyens abandonnant leur foyer en habits de fête, comme des convives qui, dans le désordre de leur parure, sont tout à coup chassés de la salle du festin par un incendie. Toutes ces images, toutes ses pensées se pressaient dans l'âme d'Aben Hamet. Plein de douleur et de regret, il songeait surtout à exécuter le projet qu'il avait amené à Grenade. Le jour le surprit. L'Abencerrage s'était égaré. Il se trouvait loin du camp, dans un faubourg écarté de la ville. Tout dormait. Aucun bruit ne troublait le silence des rues. Les portes et les fenêtres des maisons étaient fermées. seulement la voix du coq proclamait dans l'habitation du pauvre le retour des peines et des travaux. Après avoir erré longtemps, sans pouvoir retrouver sa route, Aben Ahmet entendit une porte s'ouvrir. Il vit sortir une jeune femme, vêtue à peu près comme ces reines gothiques sculptées sur les monuments de nos anciennes abbayes. Son corset noir, garni de jais, serrait sa taille élégante. Son jupon court, étroit et sans plis, découvrait une jambe fine et un pied charmant. Une mantille, également noire, était jetée sur sa tête. Elle tenait avec sa main gauche cette mantille croisée et fermée comme une guimpe au-dessous de son menton, de sorte que l'on apercevait de tout son visage que ses grands yeux et sa bouche de rose. Une duègne accompagnait ses pas. Un page portait devant elle un livre d'église. Deux valets, parés de ses couleurs, suivaient à quelque distance la belle inconnue. Elle se rendait à la prière matinale que les tintements d'une cloche annonçaient dans un monastère voisin. Aben Ahmet crut voir l'ange Israfil ou la plus jeune des houris. L'Espagnole, non moins surprise, regardait l'abencérage, dont le turban, la robe et les armes embellissaient encore la noble figure. Revenue de son premier étonnement, elle fit signe à l'étranger de s'approcher avec une grâce et une liberté particulières aux femmes de ce pays. « Seigneur mort, lui dit-elle, vous paraissez nouvellement arrivé à Grenade. Vous seriez-vous égaré ?»«
Sultane des fleurs, répondit Aben Ahmet, délice des yeux des hommes, ô esclave chrétienne, plus belle que les vierges de la Géorgie, tu l'as deviné. Je suis étranger dans cette ville. Perdu au milieu de ces palais, je n'ai pu retrouver le camp des morts. Que Mahomet touche ton cœur et récompense ton hospitalité.
Les morts sont renommés pour leur galanterie, reprit l'Espagnol avec le plus doux sourire. Mais je ne suis ni sultane des fleurs, ni esclave, ni contente d'être recommandée à Mahomet.
Suivez-moi, seigneur chevalier, je vais vous conduire au camp des morts.
Elle marcha légèrement devant l'abencérage, le mena jusqu'à la porte du camp, le lui montra de la main, passa derrière un palais et disparut. À quoi tient donc le repos de la vie? La patrie n'occupe plus seule et tout entière l'âme d'Aben Ahmet. Grenade a cessé d'être pour lui déserte, abandonnée, veuve, solitaire. Elle est plus chère que jamais à son cœur. Mais c'est un prestige nouveau qui embellit ses ruines. Au souvenir des aïeux se mêle à présent un autre charme. Aben Ahmet a découvert le cimetière où reposent les cendres des avancérages. Mais en priant, mais en se prosternant, mais en versant des larmes filiales, il songe que la jeune Espagnole a passé quelquefois sur ses tombeaux, et il ne trouve plus ses ancêtres si malheureux. C'est en vain qu'il ne veut s'occuper que de son pèlerinage au pays de ses pères. C'est en vain qu'il parcourt les coteaux du Douro et du Xénil pour y recueillir des plantes au lever de l'aurore. La fleur qu'il cherche maintenant, c'est la belle chrétienne. Que d'inutiles efforts il a déjà tenté pour retrouver le palais de son enchanteresse. Que de fois il a essayé de repasser par les chemins que lui fit parcourir son divin guide. Que de fois il a cru reconnaître le son de cette cloche, le chant de ce coq qu'il entendit près de la demeure de l'Espagnol. Trompé par des bruits pareils, il court aussitôt de ce côté, et le palais magique ne s'offre point à ses regards. Souvent encore, le vêtement uniforme des femmes de Grenade lui donnait un moment d'espoir. De loin, toutes les chrétiennes ressemblaient à la maîtresse de son cœur. De près, pas une n'avait sa beauté ou sa grâce. Aben Ahmet avait enfin parcouru les églises pour découvrir l'étrangère. Il avait même pénétré jusqu'à la tombe de Ferdinand et d'Isabelle. Mais c'était aussi le plus grand sacrifice qu'il eût jusque alors fait à l'amour. Un jour, il herborisait dans la vallée du Douro. Le coteau du Midi soutenait sur sa pente fleurie les murailles de l'Alhambra et les jardins du Généralife.
la colline du nord était décorée par l'Albaïzin, par de riants vergers et par des grottes qu'habitait un peuple nombreux. À l'extrémité occidentale de la vallée, on découvrait les clochers de Grenade, qui s'élevaient en groupe du milieu des chênes verts et des cyprès. À l'autre extrémité, vers l'Orient, l'œil rencontrait sur des pointes de rochers des couvents, des ermitages, quelques ruines de l'ancienne Illibérie, et dans le lointain, les sommets de la Sierra Nevada. Le Douro roulait au milieu du vallon et présentait le long de son cours de frais moulins, de bruyantes cascades, les arches brisées d'un aqueduc romain et les restes d'un pont du temps des morts. Aben Hamet n'était plus ni assez infortuné ni assez heureux pour bien goûter le charme de la solitude. Il parcourait avec distraction et indifférence ses bords enchantés. En marchant à l'aventure, il suivit une allée d'arbres qui circulait sur la pente du coteau de l'Albaïzin. Une maison de campagne, environnée d'un bocage, s'offrit bientôt à ses yeux. En approchant du bocage, il entendit les sons d'une voix et d'une guitare. Entre la voix, les traits et les regards d'une femme, il y a des rapports qui ne trompent jamais un homme que l'amour possède. « C'est Maori, » dit Aben Hamet. Il écoute, le cœur palpitant. Au nom des abancérages plusieurs fois répétés, son cœur bat encore plus vite. L'inconnu chantait une romance castillane qui retraçait l'histoire des abancérages et des aigris. Aben Hamet ne peut plus résister à son émotion. Il s'élance à travers une haie de myrtes et tombe au milieu d'une troupe de jeunes femmes effrayées qui fuient en poussant des cris. L'Espagnol qui venait de chanter et qui tenait encore la guitare s'écrie « C'est le Seigneur mort !» et elle rappelle ses compagnes. « Favorite des génies, » dit l'abancérage, « je te cherchais comme l'arabe cherche une source dans l'ardeur du midi. J'ai entendu les sons de ta guitare. Tu célébrais les héros de mon pays. Je t'ai deviné à la beauté de tes accents et j'apporte à tes pieds le cœur d'Aben Hamet. » « Et moi, répondit Doña Blanca, c'était en pensant à vous que je redisais la romance des avancérages. Depuis que je vous ai vu, je me suis figuré que ces chevaliers morts vous ressemblaient. » Une légère rougeur monta au front de Blanca en prononçant ces mots. Aben Hamet se sentit prêt à tomber aux genoux de la jeune chrétienne, à lui déclarer qu'il était le dernier avancérage. Mais un reste de prudence le retint. Il craignit que son nom, trop fameux à Grenade, ne donnât des inquiétudes au gouverneur. La guerre des Morisques était à peine terminée, et la présence d'un abancérage dans ce moment pouvait inspirer aux Espagnols de justes craintes. Ce n'est pas qu'Aben Hamet s'effraya d'aucun péril, mais il frémissait à la pensée d'être obligé de s'éloigner pour jamais de la fille de Don Rodrigue. Doña Blanca descendait d'une famille qui tirait son origine du Cid de Bivar et de Chimène, fille du comte Gomez des Gormas. La postérité du vainqueur de Valence la Belle tomba, par l'ingratitude de la cour de Castille, dans une extrême pauvreté. On crut même pendant plusieurs siècles qu'elle s'était éteinte, tant elle devint obscure. Mais, vers le temps de la conquête de Grenade, un dernier rejeton de la race des Bivar, l'aïeul de Blanca, se fit reconnaître moins encore à ses titres qu'à l'éclat de sa valeur. Après l'expulsion des infidèles, Ferdinand donna aux descendants du Cid les biens de plusieurs familles mortes et le créa duc de Santa Fe. Le nouveau duc fixa sa demeure à Grenade et mourut jeune encore, laissant un fils unique déjà marié, Don Rodrigue, père de Blanca. Doña Teresa de Xérès, femme de Don Rodrigue, mit au jour un fils qui reçut à sa naissance le nom de Rodrigue, comme tous ses aïeux, mais que l'on appela Don Carlos pour le distinguer de son père. Les grands événements que Don Carlos eut sous les yeux dès sa plus tendre jeunesse, les périls auxquels il fut exposé presque au sortir de l'enfance, ne firent que rendre plus grave et plus rigide
un caractère naturellement porté à l'austérité. Don Carlos comptait à peine 14 ans lorsqu'il suivit Cortés au Mexique. Il avait supporté tous les dangers. Il avait été témoin de toutes les horreurs de cette étonnante aventure. Il avait assisté à la chute du dernier roi d'un monde jusque alors inconnu. 3 ans après cette catastrophe, Don Carlos s'était trouvé en Europe à la bataille de Pavie, comme pour voir l'honneur et la vaillance couronnée succomber sous les coups de la fortune. L'aspect d'un nouvel univers, de longs voyages sur des mers non encore parcourues, le spectacle des révolutions et des vicissitudes du sort, avait fortement ébranlé l'imagination religieuse et mélancolique de Don Carlos. Il était entré dans l'ordre chevaleresque de Calatrava, et renonçant au mariage, malgré les prières de Don Rodrigue, il destinait tous ses biens à sa sœur. Blanca de Bivar, sœur unique de Don Carlos, et beaucoup plus jeune que lui, était l'idole de son père. Elle avait perdu sa mère, et elle entrait dans sa 18e année lorsque Abenhamet parut à Grenade. Tout était séduction dans cette femme enchanteresse. Sa voix était ravissante, sa danse plus légère que le zéphyr. Tantôt elle se plaisait à guider un char comme Armide. Tantôt elle volait sur le dos du plus rapide coursier d'Andalousie, comme ces fées charmantes qui apparaissaient à Tristan et à Galaor dans les forêts. Athènes l'eut prise pour Aspasie, et Paris pour Diane de Poitiers, qui commençait à briller à la cour. Mais avec les charmes d'une Française, elle avait les passions d'une Espagnole, et sa coquetterie naturelle n'ôtait rien à la sûreté, à la constance, à la force, à l'élévation des sentiments de son cœur. Au cri qu'avaient poussé les jeunes Espagnols lorsqu'Abenhamet s'était élancé dans le bocage, Don Rodrigue était accouru. « Mon père, dit Blanca, voilà le seigneur mort dont je vous ai parlé. Il m'a entendu chanter, il m'a reconnu, il est entré dans le jardin pour me remercier de lui avoir enseigné sa route. » Le duc de Santa Fe reçut l'abancérage avec la politesse grave et pourtant naïve des Espagnols. On ne remarque chez cette nation aucun de ces airs serviles, aucun de ces tours de phrases qui annoncent l'abjection des pensées et la dégradation de l'âme. La langue du grand seigneur et du paysan est la même, le salut le même, les compliments, les habitudes, les usages sont les mêmes. Autant la confiance et la générosité de ce peuple envers les étrangers sont sans bornes, autant sa vengeance est terrible quand on le trahit. D'un courage héroïque, d'une patience à toute épreuve, incapable de céder à la mauvaise fortune, il faut qu'il la dompte ou qu'il en soit écrasé. Il a peu de ce qu'on appelle esprit, mais les passions exaltées lui tiennent lieu de cette lumière qui vient de la finesse et de l'abondance des idées. Un Espagnol qui passe le jour sans parler, qui n'a rien vu, qui ne se soucie de rien voir, qui n'a rien lu, rien étudié, rien comparé, trouvera dans la grandeur de ses résolutions les ressources nécessaires au moment de l'adversité. C'était le jour de la naissance de Don Rodrigue, et Blanca donnait à son père une tertulia, ou petite fête, dans cette charmante solitude. Le duc de Santa Fe invita Abenhamet à s'asseoir au milieu des jeunes femmes, qui s'amusaient du turban et de la robe de l'étranger. On apporta des carreaux de velours, et l'abancérage se reposa sur ces carreaux à la façon des morts. On lui fit des questions sur son pays et sur ses aventures. Il y répondit avec esprit et gaieté. Il parlait le castillan le plus pur. On aurait pu le prendre pour un Espagnol s'il n'eût presque toujours dit « toi » au lieu de « vous ». Ce mot avait quelque chose de si doux dans sa bouche que Blanca ne pouvait se défendre d'un secret dépit lorsqu'il s'adressait à l'une de ses compagnes. De nombreux serviteurs parurent. Ils portaient le chocolat, les pâtes de fruits et les petits pains de sucre de Malaga, blancs comme la neige, poreux et légers comme des éponges.
après le refresco, on pria Blanca d'exécuter une de ces danses de caractère où elle surpassait les plus habiles gitanas. Elle fut obligée de céder aux vœux de ses amis. Aben Ahmet avait gardé le silence, mais ses regards suppliants parlaient au défaut de sa bouche. Blanca choisit une zambra, danse expressive que les Espagnols ont empruntée des Maures. Une des jeunes femmes commence à jouer sur la guitare l'air de la danse étrangère. La fille de Don Rodrigue ôte son voile et attache à ses mains blanches des castagnettes de bois d'ébène. Ses cheveux noirs tombent en boucle sur son cou d'albâtre. Sa bouche et ses yeux sourient de concert. Son teint est animé par le mouvement de son cœur. Tout à coup, elle fait retentir le bruyant ébène, frappe trois fois la mesure, entonne le chant de la zambra, et mêlant sa voix au son de la guitare, elle part comme un éclair. Quelle variété dans ses pas, quelle élégance dans ses attitudes. Tantôt elle lève ses bras avec vivacité, tantôt elle les laisse retomber avec mollesse. Quelquefois elle s'élance comme enivrée de plaisir et se retire comme accablée de douleur. Elle tourne la tête, semble appeler quelqu'un d'invisible, tend modestement une joue vermeille au baiser d'un nouvel époux, fuit honteuse, revient brillante et consolée, marche d'un pas noble et presque guerrier, puis voltige de nouveau sur le gazon. L'harmonie de ses pas, de ses chants et des sons de sa guitare était parfaite. La voix de Blanca, légèrement voilée, avait cette sorte d'accent qui remue les passions jusqu'au fond de l'âme. La musique espagnole, composée de soupirs et de mouvements vifs, de refrains tristes, de chants subitement arrêtés, offre un singulier mélange de gaieté et de mélancolie. Cette musique et cette danse fixèrent sans retour le destin du dernier avant-serrage. Elles auraient suffi pour troubler un cœur moins malade que le sien. On retourna le soir à Grenade par la vallée du Douro. Don Rodrigue, charmé des manières nobles et polies d'Aben Ahmet, ne voulut point se séparer de lui qu'il ne lui eût promis de venir souvent amuser Blanca des merveilleux récits de l'Orient. Le mort, au comble de ses vœux, accepta l'invitation du duc de Santa Fe, et dès le lendemain, il se rendit au palais où respirait celle qu'il aimait plus que la lumière du jour.